La revue de presse Claude Ascolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Claude, vous nous parlez d'un jeune homme.
Qui, dans la griserie des premières fois, fait danser des mots pour raconter Paris. Il va être célèbre, ce gosse, il a 23 ans. Titre de son papier, au seuil de la gloire littéraire. Bernard Pivot décrit le cocktail de rentrée des éditions du Seuil, le 7 novembre 1958, dans le Figaro littéraire. Et sur le site du Figaro, qui est toujours un grand journal, j'ai cliqué ce matin et j'ai donc lu ce premier papier d'un môme qui vient de nous quitter. Monsieur Solers, de grâce un mot, Philippe, c'est mon tour. Oh, pour contenter ses admirateurs, il eut fallu au moins 4 Philippe Solers, un par buffet. Les dames du jury féminin étaient assiégées. Dames, c'est bientôt le prix. Allez, continuez à lire, tout est charmant, vous verrez, c'est un style. De Gaulle vient de prendre le pouvoir au printemps précédent, porté par une révolte militaire. Mais à Paris, l'œil de Bernard pétille. Dans cet article, tant de choses s'annoncent. Solers est encore plus gamin que lui, même pas 22 ans, devenu célèbre dès son premier roman. Le jeune Pivot était entré au Figaro parce qu'il avait séduit le patron du cahier littéraire Maurice Noël en lui promettant un tonneau de 10 litres de Beaujolais, on appelle ça un caquillon, alors que l'autre allait recaler ce jeune homme qui ne connaissait ni Yourcenar, ni Paul Valéry, ni Roger Martin Dugard. L'histoire est connue, mais elle est très bien racontée par Pascal Nivelle du Monde, je vous mettrai les liens. Allez, Bernard se rattrape désormais, gros programme de lecture, il se sent coupable, mais il excelle aussi dans l'anecdote balzacienne. Il est écotier, courriériste, il picore les arrières-scènes littéraires, il glousse des bons mots. Lisez dans le Figaro encore ses cruautés de 1960 sur l'entrée à l'Académie française de Henri Troyat, où Pivot s'amuse du costume d'académicien dont on ne peut refaire les coutures, même si l'on grossit. Mais il ne fait pas que cela. En 1959, Pivot raconte les vendanges chez lui à Quincé-hors-Beaujolais, où le pressoir chante de bon matin. Le style est fleuri, mais plus incarné, et puis on lit ceci. Naguère venait en vendange une majorité d'ouvriers et d'étudiants. Ils ont laissé la place aux chômeurs, aux Algériens, aux Tziganes. Ce sont les doigts des plus pauvres qui cassent le raisin. Avant le Figaro, Pivot avait travaillé pour le journal de chez lui, Le Progrès, dont le site se souvient que son premier papier était un reportage sur un village vernais qui se mourait avec la désertification des campagnes. Je le lirai bien aussi, ce papier d'un jeune homme qui n'était que faussement frivole.
Et Bernard Pivot n'était pas un confrère léger.
Ah non, en vrai, une teigne. Tiens, si on parle de Beaujolais, lisez sur le site de West France qui republie une vieille interview excellente du magazine Lire que Pivot, pour son dictionnaire amoureux du vin, avait écumé et toute la correspondance de Voltaire pour y trouver la lettre où le papa de Candide disait du bien du Beaujolais. Mais ce n'est pas seulement le vin. Dans Le Monde, Le Figaro, sur le site de l'Express, lisez comment en 68, Pivot avait fait échouer la manipulation du grand Aragon qui avait mobilisé les élus communistes de Paris pour faire attribuer le prix littéraire de la ville à Bernard Clavel afin de dégager la route du Goncourt pour son ami François Nourricier. Ouais, une teigne. Vous lisez aussi comment au Figaro, trouvant que François Mauriac ne disait pas bonjour, Pivot avait refusé de donner des sous pour le cadeau de ses 80 ans. Lisez enfin comment Pivot, en 2004, devenu notre prof national, avait mal pris que Maurice Druon, ex-ministre de la Culture, au nom du français menacé, médise de lui Pivot qui, dans cette dictée, utilisait « meuf et à toute berzingue ». Réponse de Pivot. Le malheur de Monsieur Druon est qu'il voudrait que la langue française fût à son image, empesée, figée, réactionnaire, égoïste, hautaine, sinistre. J'en passe, je vous mettrai des liens, vous lirez, c'est du nanan. Donc il savait tacler Bernard, qui avait appris bien des choses au football, c'est très bien raconté dans L'Équipe et dans Libération. Il concocta longtemps pour les équipes de France des bibliothèques qui les accompagnaient dans leurs conquêtes. Grâce à lui, Battiston, en 82 en Espagne avant Schumacher, avait découvert le monde selon Garpe. Mais Pivot, finalement, avait renoncé à faire lire les fouteux en goguette quand Canal+ avait fourni les bleus en cassette vidéo qu'il soupçonnait d'être porno. Il ne s'en fâchait pas, lui qui, son âge avancé, kiffait la modernité et découvrait Twitter, où il nous livra cette drôlerie très connue. L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que, le jour où je mourrai, elles m'appelleront. C'était en 2016. Un an plus tôt, 2015, dans nos deuils de Charlie et du Bataclan, il tweetait ceci. Le silence est un cri de douleur lesté dans la gorge. Et cela, un homme avec un fusil est plus fort que 10 hommes avec un crayon. Un homme avec un crayon est plus fort que 10 000 hommes avec des fusils. C'est Le Monde qui nous rappelle quelques-uns des tweets de cet homme dont à tort on douta de la culture par snobisme à cause du du foot et du Beaujolais.
Il fut aussi critiqué quand il était puissant.
Et il faut Libération pour nous le rappeler sans fausse honte. Nous dire ainsi que Marguerite Yourcenar considérait que passer chez Pivot, c'était un mal obligé. Nous rappeler que le philosophe Gilles Deleuze reprochait à Apostrophe de faire de la littérature un spectacle de variété, un jeu télévisé, le niveau zéro de la critique. La gauche fraîchement au pouvoir, Régis Debray, conseiller culture de François Mitterrand, avait dit au Canada que ce serait une mission de cette gauche que de briser le monopole d'Apostrophe sur l'influence littéraire. Il s'en confond en excuses aujourd'hui dans Le Figaro, disant que ce jour-là, il était ivre et que de son remords, Pivot et lui forgèrent une amitié, car la tendresse l'emporte. Sur le site du Nouvel Obs, vous allez lire peut-être le texte le plus tendre de ce jour triste. Il est signé Jérôme Garcin, qui a la grâce de faire justice d'un surnom rebattu. Il avait été sacré roi lire, mais avait toujours gardé une simplicité de page, une modestie de vassal. Mais ce n'est pas seulement cela. Garcin raconte le dernier Pivot, malade, qui sait sa fin. L'an passé, lors d'un de ses nombreux séjours à l'hôpital américain, il m'avait appelé et d'une voix épuisée m'avait dit « Je vais mal, très mal, je me prépare à disparaître, c'est mieux ainsi. Oublie le Bernard que tu as connu, tu ne le reconnaîtrais pas, mais ne m'oublie pas. » Comment oublier, poursuit Garcin, qu'il aimait Debussy et Saint-Saëns, les poèmes de Maurice Fombeur, la Romane et Conti, les Roses jaunes, les déambulations parisiennes de Modiano, les Hirondelles, les dictées à l'ancienne, Pénélope Picasso, les œufs mayonnaise de la brasserie Galopin, le zizi de Perret, Tintin, le mot pécamineux, le coffre rempli de livres de la voiture sur l'autoroute du Soleil, les musées d'Italie et des Flandres, les chats, les voix de soprane. Je vous laisse lire, mes amis, il y en a beaucoup plus. Nous avons toute la vie.
Merci beaucoup, Claude, pour cette revue de presse et on rendra hommage dans 10 minutes maintenant à Bernard Pivot avec de nombreux invités au micro d'Inter.